On va partir sur un peu les équipes réseau de recherche. Alors, initialement, je ne vous cache pas, j'avais prévu une présentation qui listait toutes les équipes de recherche françaises. Et puis, je me suis rendu compte, après la journée d'hier, que ça allait être relativement fastidieux pour vous. Parce que bon, moi, ça m'amuse toujours, mais ça allait être quand même un peu fastidieux pour vous, que les informations allaient être redondantes. Donc, j'ai un peu reconfiguré l'exposé pour le ramasser et pour laisser peut-être plus de temps à ce qui arrivera ensuite. Mais ce qui n'empêchera pas de garder la même orientation. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, première notion, je crois que j'ai commencé à les développer hier. Donc, c'est juste pour mémoire. Je ne vais pas m'y appesantir, simplement pour rappeler donc les équipes qui se définissent comme des équipes pures en sciences de l'éducation, hein, pas les équipes où on travaille sur l'éducation, mais les équipes qui sont réellement dans le champ des sciences de l'éducation, 70e section, ne peuvent pas être soutenues par le CNRS. Bon, c'est ne peuvent pas être soutenues. Pourquoi ne peuvent être soutenues par le CNRS? Bon, j'ai une erreur de frappe. Pourquoi c'est important? Parce que pas de soutien du CNRS, ça veut dire beaucoup moins de structuration, moins de moyens, une force institutionnelle beaucoup moins grande. Donc ça, il faut déjà je l'ai développé hier, je le rappelle pour mémoire. Également pour mémoire, évidemment, que des chercheurs travaillent sur l'éducation à partir d'autres disciplines ou thématiques disciplinaires. Nos collègues qui sont en psychologie à Lyon 2, l'illustrent parfaitement. Vous travaillez sur l'illettrisme un peu, d'après ce que j'ai... Non? Donc, en tout cas, c'est une illustration qu'on peut travailler l'éducation à partir de la psycho, comme je l'ai souvent dit hier, et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Ce que j'ai pas trop développé hier, c'est quand même l'importance de la tradition individualiste en sciences humaines et sociales. Alors, quand j'ai écrit ça, je me suis tout de suite dit, il faut que je dise quelque chose. C'est pas vrai qu'en sciences humaines et sociales. Paradoxalement, les mathématiques, qu'on met spontanément dans les sciences dures, sont une discipline qui partage beaucoup de traits avec les sciences sociales et notamment l'aspect individualiste des chercheurs. Quand on fait de la scientométrie, c'est-à-dire qu'en gros on essaye de voir comment ils travaillent, les scientifiques, comment ils produisent et tout, les maths sont plus proches des sciences humaines et sociales que des sciences dures. Alors qu'à contrario, l'économie ou les sciences de gestion sont plus proches des sciences dures que des sciences humaines et sociales. Bon. Mais ceci dit, la tradition en SHS est encore très individualiste. Pendant longtemps, le chercheur, c'était quelqu'un qui commençait sa carrière en échangeant avec son directeur de thèse, mais qui sinon avait un rapport surtout avec des bibliothèques, avec ses propres sources, passait de longues heures tout seul à lire, à enquêter, à travailler, éventuellement avec 2-3 collègues, mais ça allait pas très 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 loin, et son insertion était avant tout individuelle. Et on le retrouvera ailleurs, c'est la recherche en éducation, ça, on se demande des fois souvent si c'est encore un univers d'auteur ou un univers d'équipe. Donc de ce point de vue-là, c'est très très important et il faut l'avoir en tête quand on aborde la question de la notion d'équipe. En particulier, un enseignant-chercheur en éducation a souvent, quand il est devenu maître de conférence, déjà à travers sa thèse, développé un thème de recherche, une spécialité. Il est assez rare qu'il en change du tout au tout quand il devient maître de conférence, parce qu'il est souvent recruté sur cette spécialité, et il emporte, entre guillemets, sa spécialité dans l'université et dans l'équipe de recherche qu'il va intégrer en devenant jeune prof, jeune maître de conférence. Ce qui explique que parfois le rattachement d'un enseignant-chercheur à une équipe, je dirais pas qu'il est artificiel, mais il y a un aspect parfois qui peut être un peu pièce rapportée, ou du moins que tout enseignant-chercheur quand même se sent légitime à essayer d'inscrire sa recherche dans le cadre des grandes thématiques de l'équipe qu'il intègre, mais se sent aussi légitime à ne pas abandonner les thèmes qu'il avait sous prétexte qu'il intègre une équipe et donc de changer à 180%. Bon, de ce point de vue-là, il faut avoir ça en tête. Il y a le cas particulier, alors, des chercheurs en UFM. Bon, là, on est dans une situation totalement mouvante à cause de l'intégration des UFM dans les universités. Alors, on l'abordera à travers quelques cas concrets, parce que c'était très compliqué de savoir est-ce qu'on va développer des équipes de recherche liés à l'UFM ou est-ce qu'il faut que les chercheurs des UFM se raccrochent à des équipes de recherche dans les universités? Il y a eu beaucoup de débats tout au long de l'existence des UFM. Bon, ben maintenant qu'on les remet dans les universités, la question a l'air d'être entendue. Mais en même temps, c'est pas si simple. Vous allez le voir sous des exemples concrets. Et puis aussi rappeler, je crois que je l'ai dit hier, que les équipes sont souvent adossées à des facultés ou des départements ou des UFR de sciences de l'éducation, dont elles constituent en quelque sorte le débouché naturel. Mais qu'il y a aussi plein d'enseignants-chercheurs en éducation qui enseignent dans des universités X ou Y qui n'ont pas d'équipe de recherche en éducation ou dans le champ de l'éducation. Et donc qui enseignent dans l'université X, mais qui sont rattachés à l'équipe de recherche de l'université Y. C'est le cas, bien évidemment, de ce qu'on appelle beaucoup de turboprofs. Alors, les turboprofs dans les universités, c'est pas qu'ils sont particulièrement rapides. Ils peuvent l'être aussi, en général, c'est mieux. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est des profs qui vont enseigner dans une université, mais qui n'habitent pas du tout dans la ville de cette université. C'est un phénomène qui est très, très, très connu dans la grande couronne parisienne. Orléans, Reims, Amiens, Tours, etc. Mais qui peut aller même beaucoup plus loin. Je peux vous dire que je connais beaucoup d'enseignants-chercheurs au nom très connu de Grenoble ou de Lyon qui habitent Paris et qui sont des familiers du TGV. Alors, turboprof, c'est-à-dire qu'ils vont dans leur université, ils y font cours, mais parfois ils reviennent dans l'équipe de recherche qui correspond plus à ce qu'ils font en région parisienne ou ailleurs. Puisque certains se sont même intégrés dans des équipes de recherche, mais quand même, en région parisienne, souvent, cette grande couronne que j'ai décrite, souvent, on voit des profs qui vont donner quelques cours d'éducation ou de sociologie de l'éducation, des choses comme ça, et puis qui reviennent dans leurs équipes de recherche qui sont plutôt à l'intérieur de la capitale. Ceci étant dit, comment se présentent donc ces équipes de recherche? N'hésitez pas à me couper là quand je vais parler parce que je vais utiliser peut-être des notions qui me semblent évidentes mais qui ne sont peut-être pas. Donc n'hésitez pas à me couper pour me demander une précision. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez d'équipe? Quel est ce sigle ou des choses comme ça? Alors, une grande diversité d'équipes. Vous avez des équipes qui sont importantes au sens quantitatif, c'est-à-dire qui ont souvent plus de 20 ou 30 enseignants-chercheurs ou qui sont relativement connues parce qu'elles ont eu quelques grands noms qui ont compté dans la recherche en éducation, et qui donc sont toujours costauds en sciences de l'éducation. Alors là, j'en ai cité quelques exemples. Les trois petits points, c'est qu'évidemment, il y en a plein d'autres. C'est une grande diversité. Je vais en prendre quelques exemples, mais là, c'était juste pour vous montrer que c'est assez bien réparti, d'une part, sur l'ensemble du territoire et également qu'elles sont très liées en général à des départements de sciences de l'éducation, mais pas toujours. Par exemple, Paris 7, la dernière, c'est l'ex-DIDIREM, il a un nouveau nom, j'ai oublié lequel, mais c'est le nom d'un chercheur qui l'a pris, mais c'est une grosse équipe de didactique des mathématiques qui est à Paris 7 et qui n'est pas adossé spécialement à un département des sciences de l'éducation, puisque là ça, c'est plutôt dans le cadre de l'IREM que s'est développée cette équipe à Aix. Pourquoi j'ai mis Aix plutôt qu'Aix-Marseille? Parce qu'en fait je pensais à l'équipe ADEF qui est plutôt sur Aix-en-Provence, même s'ils sont dans le cadre et de l'UFM et de l'Université de Provence, qui sont toujours censés être en même temps sur Aix-Marseille et tout. Bon. Donc, je vais pas détailler là toutes ces équipes. Ça, c'est quelques noms relativement connus. Il y en a d'autres, mais vous voyez donc une répartition relativement équilibrée sur l'ensemble du territoire. Mais il faut également dire qu'il y a d'autres équipes aussi importantes qui comptent dans la recherche. Pourquoi j'ai pas mis Rouen? Rouen est une équipe importante, notamment à cause des noms que vous avez mentionnés, essentiellement dans deux directions, plutôt la didactique avec Estolfi, plutôt la philosophie et les doctrines de l'éducation du côté de Housset, et c'est un laboratoire Rouen qui s'appelle Civic et qui édite en plus une revue, c'est Penser l'éducation, je crois. C'est plutôt dans l'axe, c'est plutôt les gens autour d'Housset qui la pilote. Mais en même temps, bon, Rouen est peut-être une équipe qui aujourd'hui quand même est moins en expansion dynamique par rapport à d'autres équipes. Je l'ai constaté au niveau du nombre d'enseignants-chercheurs, du nombre de doctorants, etc. Et je dis, je ne les ai pas toutes mises là de toute façon. Hein. Par exemple, là, par exemple, j'ai pas fait représenter, vous allez comprendre pourquoi, Strasbourg. Bon, pourquoi ? Parce qu'actuellement, le centre de recherche entre Strasbourg et Nancy est en train de s'est reconfiguré, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais expliquer ensuite. Voilà. Je vais en parler tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai pas noté. Bon, puis il y en a d'autres hein, que je n'ai pas mis. J'ai pas mis, comme vous le verrez, vous le voyez vous-même, j'ai pas mis Montpellier non plus. Il y a une équipe de recherche à Montpellier, etc. Bon, ce qui est important, c'est à ce stade de dire qu'il y a quand même un nombre d'équipes importantes qui est relativement consistante, qui sont relativement réparties sur tout le territoire. On n'est pas dans une situation, par exemple, Paris et la province, ou une concentration dans certaines aires géographiques. Il y a également donc des équipes qui sont importantes pour la recherche sur l'éducation, mais qui sont issues d'autres disciplines que les sciences de l'éducation. Alors évidemment, Dijon avec l'IRÉDU, sur lequel on va revenir. Il y a maintenant pas mal de recherches sur l'éducation qui se développent à Sciences Po Paris. Et il y en a en sociologie à Paris 5. Il y en a en psychologie à Clermont 2, etc., etc. Pour dire que on n'épuise pas la cartographie de la recherche en éducation en ne listant que les équipes importantes en sciences d'éducation. Bon, voilà, c'était le message essentiel à faire passer. Et on reviendra à la fin sur le cas particulier de l'INRP. Je voudrais juste dire à ce stade-là que l'INRP est à la fois une institution qui aide, abrite, suscite, anime ou pilote de la recherche en éducation, mais aussi une institution qui a d'autres services que des services purement de recherche. Par exemple, nous, la veille scientifique, on est plutôt un service, dans notre jargon, on appelle ça un service de ressources. Bon, d'autres diraient de transfert, enfin bref, on n'est pas une équipe de recherche. Et il y a plein de services comme nous dans l'INRP qui font d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'est un cas un peu particulier dans le paysage de la recherche en éducation. Alors, ce qui me paraissait important, c'est de commencer par les réseaux officiels, puisqu'au début des années 2000, toujours dans la lignée du fameux rapport pro dont on a parlé hier, il y a eu l'idée de contribuer à structurer la recherche en éducation en faisant des réseaux qui soient reconnus officiellement, c'est-à-dire qu'on leur donne un peu d'argent pour financer des colloques, des déplacements ou des publications. Et au début, c'est la direction de la recherche qui a reconnu ces réseaux. Et aujourd'hui, il semble qu'ils évoluent vers une structure de style programme pluriformation, PPF. Alors, me demandez pas là, en gros, précisément ce que c'est, puisque ce sont des formes administrativo-scientifiques qui évoluent à travers le temps. Disons qu'aujourd'hui, c'est le cadre juridique pour pérenniser ces réseaux. Voilà, point. On en restera là. Ces réseaux dans le monde de l'éducation, il y en a notamment quatre qui ont retenu mon attention. Je ne pense pas qu'il y en avait plus d'ailleurs, et qui sont de nature très différente que je vais un tout petit peu détailler. Le réseau le plus symptomatique des sciences de l'éducation, c'est-à-dire celui qui est le plus quelque part inséré dans la 70e section, je trouve, c'est le réseau Open, l'observation des pratiques enseignantes, auquel Annie a déjà fait allusion hier lors de son exposé. C'est un réseau qui regroupe, alors là, je me suis amusé avec les sigles, je vais essayer de développer un tout petit peu, mais pour vous montrer pourquoi j'ai reconfiguré cet exposé, parce que s'il avait fallu que je développe tout ça, ça aurait été vraiment fastidieux. C'est un réseau qui, au début, a été fondé par trois têtes de... Comment on appelle ça ? Tête de pont, on dira. Le CREN à Nantes, Centre de Recherche Éducation de Nantes, donc avec notamment rôle moteur de Marguerite Alté, dont nous avons abondamment parlé hier. Le CREFI à Toulouse, Centre de Recherche, Formation, et je ne me rappelle plus le I, Insertion. Les noms de ces centres, en général, n'ont pas beaucoup d'importance, il faut bien le dire. Hein. En général, ils cherchent tous à essayer de mettre un peu de R, un peu de E, un peu de F, et de les recombiner en essayant de faire qu'on ne reprenne pas un nom qu'un collègue a déjà pris. Ils sont très rarement significatifs, les noms de ces centres. Hein. Donc, c'est pour ça, retenez où ils sont. Et bon, c'est le centre de recherche de Toulouse, le CREFI, c'est ça qu'il faut retenir. Toulouse, essentiellement le Mirail et un peu Paul Sabatier. Maintenant, ils sont sur deux universités. Pour le CREFI, je ne me rappelle plus qui était la tête de pont pour le réseau, puisqu'ils ont peut-être changé, ils ont changé de direction entre-temps, mais on peut retenir Anjuro, Marc Bru, ou je ne sais plus qui était à l'époque la tête de réseau, mais enfin c'est le CREFI. Comment ? peut-être Michel Bataille, je ne sais plus. Parce qu'ils ont changé de directeur cet été, donc ça me brouille un peu. Et puis le CREF de Nanterre, Centre de Recherche, Éducation, Formation de Paris 10 Nanterre, qui était le laboratoire donc historique de Jackie Bayrou, et je crois que c'est Blanchard Laville qui s'investit le plus dans Open pour le CREF. Donc ça, c'est les trois têtes de pont. Mais dans le réseau Open, il y a beaucoup d'autres mondes, beaucoup d'autres gens, je veux dire. Mon Dieu. Il y a le Centre de Recherche de Rennes 2 et en large partie de l'IUFM, le CREAD. Il y a l'équipe ADEF, d'Aix, Université de Provence, Aix-Marseille, comme je vous l'ai dit, UFM aussi de Provence. Il y a le Centre de Recherche de Caen, le CERS. Il y a l'équipe éducation et apprentissage, qui est une des deux équipes en éducation de Paris 5. Il y a ICAR, une partie d'ICAR, je dirais, une grosse UMR qui est ici à l'ENS Lettres et Sciences Humaines, et qui est aussi une UMR INRP. ELDAR, j'ai même oublié ce que c'était, pour tout vous dire. C'est peut-être le Centre de Didactique de Paris 7, peut-être leur nouveau nom, justement, je le crois. Donc il y a d'autres centres, PAIDI, qui est du côté de Clermont-Ferrand, Steph qui est à Cachan, Proféor à Lille. Bon. Donc vous avez beaucoup, beaucoup d'équipes de recherche qui ont toutes comme point commun, donc évidemment, comme le nom l'indique, l'observation des pratiques enseignantes, donc beaucoup de didactique, beaucoup de gens qui travaillent sur les situations en classe, et beaucoup de gens qui travaillent sur les pratiques des enseignants. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ce réseau est important parce qu'il est encore assez vivant. Si vous faites réseau open sur un moteur de recherche, vous trouverez un site qui est relativement actualisé et qui contient pas mal d'informations. Donc, je vous recommande d'y aller. Mais faites bien réseau open ou open éducation, etc. Parce qu'autrement, open tout seul, évidemment, ça, vous allez tomber sur d'autres choses. Second réseau important, c'est le réseau Reseda. Alors lui qui, quand même, il faut bien le dire, un peu moins diversifié. Je pense que Jean-Yves Rochex et Elisabeth Bautier diraient non, il est très diversifié, mais quand même, c'est un réseau qui est essentiellement lié à l'équipe de Paris 8. Alors, l'équipe de Paris 8 a la particularité ces dernières années de changer un peu d'intitulé tous les deux ans. Donc on a du mal à s'y retrouver. Entre nous, on dit souvent ISCOL, puisque c'était leur nom. Mais en fait, ce nom-là, théoriquement, n'existe plus. Puisque déjà, il y a deux ans, c'était devenu ESSI, parce qu'ils s'étaient regroupés avec d'autres équipes de Paris 8. Et maintenant, c'est donc CIRCEFT. Je ne développerai pas l'acronyme. Mais ce qu'il y a dessous, je le sais, en revanche, c'est en gros tous les gens qui travaillent sur les sciences de l'éducation à Paris 8, plus une équipe qui travaillait en éducation, mais qui était une équipe de recherche technologique, qui est une jeune équipe qui vient de Paris 12 et qui était spécialisée plutôt sur les aspects de validation des acquis de l'expérience professionnelle. Bon. C'est le laboratoire où il y a notamment deux personnalités importantes, Jean-Yves Rochex et Elisabeth Bautier. Laboratoire qui également avait une personnalité importante, mais qui actuellement passe plus de temps au Brésil qu'en France, qui est Bernard Charlot, qui était Bernard Charlot, qui est toujours là, mais qui maintenant qui a l'essentiel de son activité intellectuelle au Brésil. Donc c'est essentiellement ce labo qui est la tête de pont qui a lancé Reseda et qui l'anime. Et je dirais, pour le caractériser très rapidement, c'est un réseau qui travaille surtout sur la question de la sociologie des inégalités dans l'éducation, mais avec une focale évidemment sur les rapports différenciés selon l'origine socio-culturelle de rapport au savoir et aux apprentissages. Bon. C'est-à-dire, c'est quand hier Patrick vous a parlé des travaux, par exemple, de Bonnery, sur les malentendus scolaires, on est en plein dans cette problématique-là. Hein, vous le voyez de façon très concrète. Et donc, dans ce réseau, il y a également donc, des gens qui viennent d'ADEF, puisque le laboratoire d'ex-ADEF, il y a à la fois des didacticiens et des gens qui travaillent pas mal sur des aspects un peu plus sociaux, des processus d'apprentissage et de formation, et des gens aussi qui viennent du labo LAMES de sociologie, là aussi qui est toujours vers Aix, et puis il y en a d'autres. Mais il me semble quand même un peu moins actif que le réseau Open. En tout cas, de cause, j'ai trouvé moins de traces de Reseda que d'Open dans divers endroits. Autre réseau d'inspiration, là, clairement sociologique, mais avec une autre, un autre angle d'approche, c'est le réseau RAP, réseau d'analyse pluridisciplinaire des politiques éducatives. Alors, je ne vous l'avais pas dit, Reseda, il n'y a rien sur le web. Enfin, il y a juste 2-3 pages de présentation sur l'ancien site eSchool, donc bon. RAP, il y a un beau site, mais qui n'est plus à jour depuis 2 ans. Donc, je vous le dis tout de suite, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, mais c'est essentiellement pour des aspects d'archives. Alors, qu'est-ce que c'est RAP ? C'est essentiellement, pour faire court, pour résumer au début, imaginez Agnès Van Zanten et Marie Durubela. Bon. Donc là, déjà, vous avez une idée à peu près, pour ceux qui connaissent les personnes, de ce dont il s'agit, c'est-à-dire des sociologues qui travaillent sur l'éducation avec une forte connexion aux travaux de sociologie internationaux. Et donc, on y trouve très naturellement le centre de recherche IREDU de Dijon, l'OSC Paris, ouais, de Sciences Po Paris, le LEST, qui est un labo de sociologie du travail, plutôt, là aussi vers Aix-Marseille. Le GIRSEF Louvain, là, c'est une équipe belge, mais qui est très, très, très productive et qui entretient des rapports très, très étroits, notamment avec l'OSC. Et le Center for Policy Research, et après je sais plus, en gros un centre sur les politiques publiques de Londres, de l'Université de Londres, et qui travaille avec le RAP. Le RAP organise périodiquement des séminaires, c'est son activité essentielle. Le dernier, je crois, était à Genève, c'était au printemps dernier, c'était sur les marchés scolaires. Ils sont en train de faire émerger le concept de marché scolaire pour essayer d'analyser les fluctuations dans l'offre et la demande éducative et la reconfiguration des établissements dans ce cadre-là. Pourquoi Genève ? Parce que un sociologue qui se rattachait un peu à ça a émigré en Suisse. Il travaille en Suisse et donc c'était un peu lui l'hôte de cette rencontre. Et puis dernier réseau, alors c'est un peu le je dirais pas le vilain petit canard, parce qu'il se trouve que je fais partie de ce réseau, mais c'est vrai que c'est pas le réseau le plus central par rapport au champ de l'éducation. C'est un réseau d'études sur l'enseignement supérieur qui est actuellement dirigé par Christine Musselin, qui est une sociologue, mais qui est surtout connue pour être la spécialiste des questions d'université d'enseignement supérieur en France, qui dirige par ailleurs le Centre de sociologie des organisations de Paris, Sciences Po Paris et CNRS, et qui est le laboratoire historique de Friedberg et Crozier, pour vous citer des noms un peu connus dans la sociologie. Et donc ce réseau, c'est essentiellement quelques colloques annuels, un ou deux, et un annuaire. Et donc c'est essentiellement un réseau d'échanges, c'est pas énormément structuré. Et à l'origine, on trouve donc le CSO Paris, l'IREDU Dijon encore, le LAPSAC, c'est-à-dire le laboratoire de sociologie fondé par François Dubé à Bordeaux 2 et qui continue de vivre, et le CREF de Nanterre. Alors chacun apportant un peu ses spécificités, avec le CSO on travaille plus sur les organisations universitaires, l'IREDU sur la question des relations entre emploi et formation, flux d'entrée, flux de sortie, statistiques sociales sur les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, le LAPSAC plus sur l'aspect la condition étudiante, l'expérience des étudiants, la façon dont ils vivent leurs études et tout, et le CREF via quelqu'un qui s'appelle Marie-Françoise Savbonnet, plutôt sur la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Voilà, je dis ça pour vous. Il n'y a pas de répertoire officiel des équipes de recherche. C'est très amusant. Il y en a un théoriquement, forcément. Théoriquement. Mais je ne sais pas comment y accéder. À savoir que la direction en charge de la recherche en France a sur son site un endroit où il y a les équipes, théoriquement 70e section. Il est très peu à jour, et surtout il y a quasiment aucun renseignement dedans. Il y a au mieux le sigle, une vague adresse, et puis je crois que c'est tout. Et il n'est pas très à jour en plus. Les sites, y compris là, sur le site de l'Association des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, il n'y a pas de répertoire des équipes de recherche, il n'y a qu'une carte des départements de sciences de l'éducation, ce qui quelque part est très significatif. Il n'y a qu'un annuaire des personnes, membre de l'association. Je crois que j'ai fait le tour des endroits où on peut trouver un annuaire de ce type. Je me demande. Non, il y en a pas d'autres. Et voilà. Donc après, il reste donc la veille scientifique et technologique. Alors nous, sur nos pages, on a une rubrique qu'on vous montrera à un moment donné de pause, qui est site. Je crois qu'il s'appelle site des équipes, équipes et réseaux de recherche, où on tient plus ou moins. C'est pas un annuaire des équipes, en fait, c'est un répertoire de sites web d'équipes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Puisque notre répertoire, par moment d'abord, c'est pas évident de le mettre à jour, parce que poser le problème de mettre à jour, vous savez, une équipe qu'on recense avec leur site web, quand ils changent l'URL de leur site web, ils vous préviennent pas la plupart du temps. Surtout si entre-temps ils ont disparu. Donc nous, il y a un lien cassé mais dont on ne s'aperçoit pas forcément. Et je dois avouer, il y a des technologies pour détecter les liens cassés et tout. Mais vu que nos pages VST, on a des centaines de liens dans tous les sens, on n'a pas le temps de maintenir tout ça. Pas avec une équipe de 6 ou 7 personnes comme c'est actuellement. Donc à partir de là, on a ce qu'on pourrait appeler comme une sorte d'annuaire. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est d'être plus ambitieux, mais on ne sait pas si on va le faire et sous quelle forme et avec quelle légitimité. C'est une question difficile. C'est est-ce qu'on peut dresser une liste. Mais quelle liste? Une liste des équipes qui sont en 70e section? Une liste des équipes qu'on estime, dont on estime qu'elles interviennent en éducation? Et alors dans ce cas-là, qui va fixer les limites? Dans le cadre de cet exposé, moi je peux vous dire, ceux-là ils interviennent en éducation, ceux-là ils n'interviennent pas en éducation. Bon, je pense que même s'il paraît que cette intervention est enregistrée, elle est mise en ligne, il n'y aura pas beaucoup de monde pour m'écouter. Bon, si on l'écrit avec le label INRP sur un site web, ça a des effets de légitimation institutionnelle, donc de délimitation, etc., etc., qui font que ça devient un enjeu et ça peut être beaucoup plus compliqué de décréter telle équipe, on estime qu'elle est en éducation, telle équipe y est pas. D'autant plus que là aussi, il faut le mettre à jour. Vous serez étonné, si vous vous amusez à faire des recherches par vous-même, du nombre d'équipes qui ont des présentations qui ne sont pas du tout à jour par rapport à ce qu'elles sont réellement. Pour cet exposé, je peux même vous dire que la semaine dernière, j'ai envoyé un mail à quelqu'un pour lui dire « SOS, j'ai vu que votre équipe de recherche a disparu, qu'est-ce que vous êtes devenu ?» C'était le seul, j'avais exploré tout le site web de son université, tous les documents officiels, etc. Je n'arrivais pas à trouver de réponse. Et aujourd'hui, ce qu'on fait actuellement, notamment dans notre essai de cartographie des équipes, c'est qu'on essaye de regarder systématiquement les rapports de la nouvelle instance d'évaluation de lancement supérieur français qui s'appelle l'AERS. Parce que l'AERS a un avantage, c'est que d'une part, ils évaluent systématiquement toutes les équipes de recherche et deuxièmement, ils mettent tout ça en ligne. Bon, donc l'avantage, c'est que, par exemple, ils ont évalué... Ils ont évalué le CIRCEFT, là, l'équipe de Saint-Denis. C'est par eux que j'ai compris un peu la généalogie de tout ça, parce que le site web n'est pas du tout à jour, justement, de cette équipe à Paris 8. L'ARS, il y a 4-5 pages où ils décrivent, en gros, comment vit l'équipe, les principales thématiques, leur historique, leur généalogie. Et puis, il y a quelques recommandations à la fin. Et bon, ça, c'est déjà une information très précieuse. Bon, nous, on commence à récupérer ces choses systématiquement. Le problème, c'est que l'AERS procède par vagues et qu'ils ont évalué pour l'instant... Enfin, sur leur site, on ne trouve que les évaluations, je crois, de la vague où il y avait notamment la région parisienne. Il n'y a pas, par exemple, Lyon, puisque Lyon va arriver après. Il n'y a pas Bordeaux. Il n'y a pas... Bon, donc c'est pas encore un outil qu'on peut utiliser pleinement, mais pour des raisons de calendrier normal. Une fois que tout aura été fait, on pourra s'appuyer quelque part sur les fiches de l'AERS pour systématiquement... Sachant que l'AERS, en même temps, eux sont toujours dans les problèmes disciplinaires. C'est-à-dire que je me suis amusé à regarder la composition des équipes d'experts. Quand c'est l'éducation, on voit bien, puisque les experts, c'est des experts en éducation, enfin, qui se situent dans le champ de l'éducation... Souvent, par exemple, on trouve pour l'éducation à l'époque, pour la première vague, on voyait Denis Meuret comme chef de délégation, qui est un ancien chercheur qui vient de l'IRÉDU à Dijon. En revanche, il y a d'autres équipes que moi j'estime qu'elles interviennent beaucoup dans l'éducation, mais simplement elles ne font pas que de l'éducation, elles font aussi autre chose. Et bien, des fois, elles sont évaluées par leur discipline principale, et, par exemple par leur discipline de rattachement au CNRS, donc elles sont évaluées par des sociologues, par des psychologues, par des politistes, des choses comme ça. Un exemple qui me vient à la tête, le Serlis de Paris 5, qui est un centre historique pour la sociologie de l'éducation, à l'origine c'était le centre de recherche de Viviane Isambert-Jamati dont j'ai parlé hier. Lui, il est évalué dans le cadre de la sociologie, même s'il y a beaucoup d'éducation dedans. Donc l'équipe d'experts de l'ERS, ce sont des sociologues, qui ne sont pas fermés à tout, donc qui ont des notions évidemment solides, même dans le champ de l'éducation, mais enfin, quand même, il est jugé par rapport à la sociologie, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question de répertoire d'annuaire. Moi, je pense, oui, qu'un service de veille doit tenir un annuaire, un répertoire à jour, mais que c'est beaucoup plus difficile à faire que ce qu'on ne pense. C'est très difficile à trouver dans n'importe quel pays, d'ailleurs, ce genre de répertoire. Très difficile à trouver. Parce que nous, on en cherche sans arrêt et c'est pas toujours évident de les trouver.
J'aurais une question avec ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, hier, on a eu des listes.
Ouais.
Vous êtes en train de, plus ou moins, de nous dire qu'on se pose la question de faire des listes de listes.
Ouais.
Et qu'en fait, avec ce que vous nous dites, la fabrication de la liste induit, cette sélection induit et implique des, comment dirais-je, des poids différents dans les différentes, dans les différents groupes. Donc en fait, la question qu'on doit se poser, enfin que moi je me pose, c'est comment est-ce que je vais tisser. Quand on fait des listes, vous faites ça, et moi je suis obligée de passer comme ceci ou comme cela. Donc en fait, il faut que je regarde autrement. Il faut que j'arrive à croiser autrement les listes. Ça ne suffit pas d'avoir la liste. C'est-à-dire que je n'arrive pas à... Et je fais quoi? C'est comme si, par exemple, je vous me donnais des fils, et je ne sais pas si avec ces fils, je vais tricoter ou je vais tisser. Et comment je vais le faire? Je suis en train maintenant de me poser cette question avec tout ce que vous nous avez... Vous voyez?
Oui, non.
Je... Au niveau du sens, j'en fais quoi après?
Alors, oui, non, je vois, oui, non. Ce que je voudrais plaider, c'est pour dire, premièrement, pour nous, ces listes-là, quel est l'intérêt? Donc, c'est qu'elles n'existent pas, hein, premièrement. Donc, c'est d'essayer de commencer.
Je comprends
l'intérêt. Oui, non, mais deuxièmement, et comment les constituer? On essaye de s'accrocher sur des indices qui tiennent, c'est ce que j'ai expliqué hier, au cadre institutionnel, aux productions scientifiques, etc., et que petit à petit, on les relie au thème et au sens, aux productions elles-mêmes. Mais, ceci dit, comment nous, on les fait? Parce que moi, ma seule façon de répondre à votre question sur les fils, etc., c'est de vous dire comment nous, on travaille. C'est que c'est muni de tous ces outils, ou ces listes, ou ces lieux, ou ces sigles, etc. À force de les manipuler, on commence à leur voir une teinture. Et quand on a une question à traiter, puisque c'est ça, c'est aussi le sens de cette formation, c'est pas une formation en soi pour connaître la recherche en éducation en soi. Bon, c'est réellement pour y faire quelque chose dedans, pour l'utiliser dans un but précis. Donc, par exemple, on a un thème, quand je dis un exemple, c'est souvent même le seul exemple, c'est on a un thème, on veut voir ce que dit la recherche en éducation sur ce thème-là, ou mobiliser des ressources de la recherche en éducation, des œuvres, des gens, des institutions, bon. Muni de ces listes-là, on sait où aller d'abord chercher. C'est ça l'idée, d'abord à quelle porte frapper. On a un thème qui est, par exemple, un thème sur... on veut s'interroger sur la relation entre les parents et l'école. Bon. On va d'abord chercher... Là, aujourd'hui, on est sur les équipes de recherche. Plus tard, on sera sur les ouvrages, les revues et tout. Ce sera peut-être plus simple. Mais même sur les équipes de recherche, on va d'abord aller taper dans des équipes dont on se dit, d'après ce que je me souviens, vu la focale que mettent les uns et les autres, on aura peut-être moins de chances de trouver quelque chose sur le rapport des parents à l'école dans les équipes de didactique que dans les équipes de sociologie qui étudient les rapports de l'institution scolaire avec la société. Et dans ce champ... justement, plutôt de sociologie de l'éducation, est-ce que je vais plutôt aller voir ce qui se passe du point de vue de ceux qui étudient la relation des milieux défavorisés, rapport au savoir, etc., ou est-ce que je vais plutôt chercher, par exemple, du côté de ceux qui étudient le rapport aux dispositifs et aux politiques publiques? Bon, donc là, on a un début. Bon, en l'occurrence, sur cet exemple, c'est un peu trop facile, et il est évident qu'il faut les taper dans le réseau RAP, et donc aller voir dans chacun de ces sigles, de ces laboratoires, s'ils ont écrit des choses sur les parents. Et très vite, on va tomber sur stratégie parentale, etc. Et on va commencer à nourrir notre recherche. Bon, puis après, il faudra aller chercher ailleurs, se dire, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui ont travaillé là-dessus? Et à l'aide d'autres outils que vous allez découvrir plus tard dans cette journée et dans la journée de demain, vous allez avoir... C'est comme ça que je peux vous proposer de travailler. Voilà. C'est peut-être pas la réponse précise à votre question, mais il n'y a pas de formule magique. C'est en droit. J'ai fait un tout petit peu de droit quand j'étais jeune, hein, je suis désolé, je m'en excuse. Mais la seule chose que je garde un peu de ces années-là, c'est l'idée du faisceau d'indices. Hein. Et quand nous, on cherche à reconstituer justement des références dans le pays de la recherche, on travaille beaucoup par faisceau d'indices. C'est-à-dire qu'on a des listes un peu à droite et à gauche, hein, qu'on sait progressivement approprié dans nos têtes, parce qu'il est évident, on a complètement abandonné, c'est un point important peut-être que je vais dire par rapport à cette question, quand on a commencé la veille scientifique et technologique, on s'est posé le problème de dire est-ce qu'on fait des banques de données. Vous savez, ces méga banques de données où on va indexer des tas de ressources, leur mettre les mots-clés, les thésaurus correspondants, etc., en se disant que au bout de X temps où on aura rentré tout ce qu'on peut, il suffira de taper sur un bouton et hop, on aura tout qui sort par miracle. Bon, on a totalement abandonné cette idée, d'abord parce que ça a déjà été tenté à l'INRP et qu'on s'est rendu compte que c'était là, pour le coup, Sisyphe et son rocher. Hein. C'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. On commence et à la fin, on se dit, bon, ça serait bien si on était, oh oui, à peu près 800 à travailler jour et nuit là-dessus pour arriver. Bon, non, mais je caricature un peu, mais c'est ça. On n'arrive pas à tout rentrer. On n'y arrive pas à tout actualiser, etc. Donc, on a été beaucoup plus, je dirais, modeste dans l'approche. Et on procède par faisceau d'indices, c'est-à-dire par approximation successive. On essaye de connaître le terrain, de bien lister ce qu'il produit, la façon dont il se présente, quels sont ses cadres institutionnels, en se disant... Bon, ben là, la plupart quand même des recherches, elles sont dans ces cadres-là. Donc, c'est encore le meilleur moyen les approcher. Et même si on n'est pas dans l'exploitation systématique du type banque de données, on s'est aperçu quand même que dans un champ relativement réduit comme est celui quand même de l'éducation, nous arrivons sur un sujet, quand nous y prenons à peu près sérieusement, à ramener l'essentiel de ce que nous voulons dans notre filet. Du moins, comment on s'en rend compte? Si on se rend compte qu'il y a peu de gens qui nous écrivent pour vous dire « vous m'avez oublié ». Ce qui est en général pour nous la validité suprême, puisque dès qu'on oublie quelqu'un, il nous écrit pour nous le lire. Donc, alors le CEREC, c'est très compliqué parce que le CEREC, c'est un endroit essentiel pour la production de savoir. Donc, de ce point de vue-là, ça répond bien à la définition du type de recherche. Et puis, parce qu'il y a des chercheurs qui sont attachés. Bon. Le CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Je dis ça parce qu'on n'est peut-être pas tous censés le savoir. Et c'est notamment lui, en gros, qui fournit l'essentiel des chiffres. Par exemple, pour savoir quel est le taux d'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Je dis ça parce que j'ai été récemment là-dedans. Mais aussi sur tout ce qui concerne la relation formation-emploi. Il est absolument, c'est absolument vital, les études du CEREC. Et beaucoup de gens... Beaucoup notamment de sociologues de l'éducation font des passages au CEREC. Ils vont, ils viennent, etc. Récemment, j'étais encore à un colloque, il y avait Jean-François Giré qui maintenant à l'IREDU, qui avant était au CEREC. Bon, donc c'est très pour eux. Donc c'est très important le CEREC. Maintenant, c'est pas une équipe de recherche au sens traditionnel du terme, puisque là aussi, c'est un peu comme l'INRP, c'est quelque chose de spécial, puisque c'est un établissement public, je crois, sous la forme juridique. Donc c'est pas exactement la même dynamique. Il est lié à une mission très précise. C'est pas lui qui détermine totalement, il a un conseil scientifique et tout ça, mais il doit toujours travailler dans le même secteur. Voilà. Mais c'est très important aussi. Comme nous, moi j'utilise souvent.
Une autre question, si vous permettez, monsieur Rey. Le cadre juridique dont vous avez parlé tout à l'heure, qui structure les réseaux de recherche de telle façon d'assurer les appuis financiers pour leurs travaux. Est-ce qu'il permet justement la formation des équipes ad hoc selon un projet? Non.
Non.
Donc c'est stable.
Non, non. Là, on est dans des réseaux qui visent uniquement à faciliter l'échange d'informations entre équipes. On n'est pas du tout dans des financements qui permettent de structurer ou de lancer une équipe. Pour ce genre de choses, en France, on tend à fonctionner de plus en plus par appel d'offres. Alors, il y a deux types d'appels d'offres. Il y a d'une part les appels d'offres de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui a été fondée il y a 3 ans, 4 ans, je ne me rappelle plus la date exacte. Enfin bon, vous voyez, c'est récent, on a pas mal de réformes ces dernières années. Et l'ANR, c'est effectivement des projets, des appels à projets, et ceux qui répondent ont des dotations relativement conséquentes sur style 4 ans en général, hein, je crois. c'est peut-être pas suffisant pour fonder une équipe, parce que la fondation d'une équipe, c'est l'université qui décide de fonder une équipe, c'est pas le ministère ou l'État. Mais l'ANR permet en gros de financer des gros programmes de recherche. Pour l'anecdote, j'ai été sollicité par des anciens chercheurs là de l'équipe de Lyon 2, de l'ISPEF, hein, qui comment on appelle ça quand on l'ANR a ils ont répondu et ils ont été sélectionnés pour dans le cadre d'un appel d'offres ANR sur un projet concernant l'impact des pratiques artistiques à l'école. Et donc, ils vont travailler avec plusieurs autres équipes pendant 4 ans sur cette question-là. Et ils se demandaient si on pouvait travailler avec eux là-dessus pour les aider. Voilà, ça, c'est typique. C'est un gros projet qui va permettre quand même, sur ce thème-là, de faire des recherches sur le terrain, de financer des colloques, de réunir des experts, d'accumuler de la documentation. Qui fait qu'en gros, on aura, sur ce thème-là très pointu, une source de connaissances assez stabilisée, assez forte à la fin, normalement, puisque c'est bien le but de ces projets-là. Et puis, la deuxième source d'appel d'offres, j'ai dit qu'il y en avait deux, on en parlera peut-être un peu cet après-midi, ce sont les appels d'offres internationaux et notamment les appels d'offres européens. Les appels d'offres des programmes de recherche et développement de la Commission européenne sont maintenant très structurants dans la mesure où c'est des très, 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 très gros programmes qui sont très, très, très compliqués à gérer, même quand on les a gagnés. Mais qui sont très structurants, mais on en reparlera cet après-midi. On vous donnera des exemples très concrets dans lesquels nous sommes nous-mêmes impliqués. Donc, on se développera plus. Là, je vois que l'heure tourne. Je vais quand même reprendre le cours de mon exposé. C'était plus intéressant de parler avec vous quand même. Donc, je vais essayer maintenant de vous montrer très rapidement quelques typologies d'équipes en prenant des angles de vue différents. Et je vais un peu me lever parce que je suis un peu ankylosé. Donc... je me suis amusé à commencer par un réseau informel, mais qui était une bonne façon d'entamer la chose. C'est le réseau SEGO. Alors, je ne sais pas si c'est le réseau SEGO par rapport à une présidente de région ou par rapport à SEGO, c'est plus fort que toi, je ne sais pas. Mais ça s'appelle comme ça. C'est en gros les sciences de l'éducation du Grand Ouest. Hein, l'acronyme, il parle de ça. Je trouve ça intéressant parce que c'était un réseau relativement lâche et informel, mais des équipes de recherche qui sont dans le Grand Ouest, à Caen, à Nantes, à Rouen et à Rennes. Elle n'avait pas là la dame qui avait parlé de Rouen tout à l'heure. Je la cherchais des yeux. Elle reviendra. Alors, ce réseau SEGO, c'est intéressant parce qu'on voit des équipes typiques des sciences de l'éducation. Donc, l'équipe de recherche du CERS de Caen, qui est l'équipe historique de Gaston Mialaret, qui aujourd'hui, je crois, est dirigée par Alain Vergniaud, qu'on pourrait qualifier très rapidement plutôt comme... Oups, là, où ça fait du bruit. Comme un philosophe de l'éducation, qui comprend une vingtaine d'enseignants-chercheurs et qui édite notamment la revue « Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle ». Qui est une revue qu'on retrouvera quand on parlera de revue, mais qui était au début la revue des groupes français d'éducation nouvelle, d'où ce titre bizarre, les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, qui est toujours un peu compliqué à écrire et à comprendre aujourd'hui. Dans ce réseau SEGO, on retrouve également le centre de recherche éducation de Nantes, qui est une grosse équipe de l'université de Nantes et de l'IUFM des Pays de Loire. Donc, en gros, les chercheurs des Pays de Loire se rattachent plutôt aux CREN. Hein, ça a été un choix. Il faut savoir que Marguerite Altet a été directrice de l'UFM et toujours peut-être directrice de l'UFM des Pays de Loire. Elle est partie en retraite, ça y est. Bon, c'est pour ça que je disais arrêter, c'est ce qui me semblait, mais je voulais pas. C'est très désagréable de mettre les gens à la retraite alors qu'ils ne le sont pas encore. Ça les vexe beaucoup. Donc, c'est un centre de recherche assez important. Alors, très, très, très pluridisciplinaire. Dedans, on trouve aussi bien... des gens plutôt philosophie. Je crois que le directeur actuel, c'est Michel Fabre, qui est un spécialiste de la problématisation et qui est dans un axe plutôt philosophique. Le dernier bouquin qu'il a écrit, c'est aux éditions Vrin, ce sont des éditions de philosophie typiques. Mais on trouve également dedans des gens qui étudient la carrière, l'entrée dans le métier des enseignants, des gens qui font de la didactique, des gens qui font des travaux sur les professions des enseignants. Enfin, c'est très, très, très varié au niveau des thèmes qui sont abordés. J'ai dit pluridisciplinaire, c'est une idiotie, excusez-moi, je voulais dire une pluralité de thèmes, pas forcément de disciplines. Il y a plus d'une trentaine d'enseignants-chercheurs et depuis 2006, ce centre a une revue en ligne qui s'appelle Recherche en éducation. Alors bon, le grand problème dans notre champ, c'est de retenir le nom des revues, parce que là aussi, c'est le jeu, c'est d'essayer de combiner recherche, éducation, formation, revue. Bon, donc résultat, on se trompe un peu dans les noms des revues. Alors dans ce réseau SEGO, enfin bref, il y a aussi donc le centre de Rouen civique, qui est quand même un centre beaucoup moins important. C'est pour ça que tout à l'heure je m'étais permis de ne pas le mettre, puisqu'il y a une douzaine d'enseignants-chercheurs, avec deux axes, d'une part la didactique, les savoirs, les acteurs de la formation, c'est un axe... piloté par Jean-Pierre Astolfi, qui est une figure un peu connue dans le monde des sciences d'éducation, et de l'autre, Jean Housset, dont on a déjà rencontré hier, qui est plutôt sur la question de la philosophie des doctrines pédagogiques, et ils éditent la revue Penser l'éducation. Et on a également dans ce réseau SEGO, je vais très rapidement, c'est juste pour avoir un aperçu, une typologie, hein, le CREAD de Rennes, qui est une équipe en même temps de l'Université de Rennes 2, de l'UBO, puisque de Brest, donc, puisqu'il y a un ou deux anciens chercheurs qui viennent de l'UBO qui interviennent dans cette équipe, et de l'UFM de Bretagne, ou du moins de son site de Rennes. Il y a une trentaine d'enseignants-chercheurs, et eux aussi, depuis 2006, ils ont une revue en ligne qui s'appelle Éducation et didactique. Voilà. Qui est d'ailleurs, je crois, co-dirigée par Christian Orange et par Alain Mercier. Alain Mercier qui lui-même est dans l'équipe ADEF, UMR, INRPX, je crois. Hein. On va vérifier ça, mais il me semble bien. Tout ça pour vous dire tous les fils qu'il y a un peu de partout. Hein, quand vous parlez de tirer des fils, on se prend les pieds dedans aussi, des fois, nous-mêmes. Autre exemple d'équipe, donc voilà, vous voyez, c'était un réseau avec des équipes assez importantes, un peu historiques, en sciences de l'éducation, et donc vous voyez bien un peu la typologie. Un autre exemple, c'est une grosse équipe qui est grosse, j'ai mis entre guillemets, c'est au sens quantitativement déjà elle est grosse, et qui vient de se former il n'y a pas très longtemps, c'est en fait la fusion des trois laboratoires qui intervenaient sur l'éducation à Lille, qui ont fait le CIREL. Et alors, ça me donne l'occasion de vous parler de quelque chose qui est quand même important au niveau des cadres institutionnels disciplinaires. Ah, on vient de parler du civique de Rouen, hein, je suis désolé, on a passé... ça me donne l'occasion de parler de quelque chose d'important, c'est... le ministère, depuis plusieurs années, pousse énormément à la reconfiguration des équipes et au fait d'avoir des équipes qui soient plus structurées, plus grosses, plus fédérées, etc. À mettre fin à l'éparpillement des équipes. Bon. De ce point de vue-là, il y a une grosse pression, et donc ça va se renforcer avec les évaluations de l'AERS, au regroupement. Et on va le retrouver, y compris dans la typologie que je vous ai montrée là, mais on le sent dans la vie scientifique universitaire. Et Lille est un des effets, parmi d'autres, de ces regroupements. Ils ont regroupé trois laboratoires. Le laboratoire Proféor, qui s'est construit historiquement sur une spécialité des recherches sur les professeurs, les enseignants et en général sur les professionnels de l'éducation. C'est pour ça que j'ai mis avec une attention spécifique sur les acteurs. Un laboratoire qui est le laboratoire historique d'émergence de didactique du français sous la conduite d'Yves Reuter, c'est le laboratoire Théodile, et qui maintenant donc parle plus généralement de didactique des disciplines, même si quand on pense Théodile, on pense didactique du français, spontanément. Et le laboratoire, alors ces deux laboratoires étaient à Lille 3, l'université Charles de Gaulle, et le laboratoire Trigone, qui lui est sur l'île 1, l'USTL. Trigone, qui lui était beaucoup plus, qui était plutôt sur la formation des adultes d'une part, et les technologies nouvelles en éducation. Ce qui explique aussi que le fait qu'il soit à l'île 1.
Excusez-moi, monsieur Ray, encore une fois, concernant justement la fédération des laboratoires ont de très grandes équipes de recherche, est-ce que justement, ayant pour objectif d'assurer la multiréférentialité en termes de sciences de l'éducation, ce qui est très important, ou bien d'assurer l'uniformisation, et ce qui est bien sûr très négatif pour la recherche en sciences de l'éducation, parce que on va justement arrêter la controverse et qui est d'ailleurs une source d'enrichissement.
Non. Là, honnêtement, pour l'instant, dans la configuration de ces équipes, et là je vous prends l'équipe de Lille, on ne peut pas parler d'uniformisation pour l'instant. Dans 5 ans, j'en sais rien, mais pour l'instant. Parce que souvent, en fait, ces grosses équipes, c'est quelque chose que j'allais dire plus tard, mais je le dis tout de suite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elles se regroupent, mais elles gardent, chacune sous équipe, garde son identité. Donc, grosso modo, les gens qui travaillaient à Trigone sur les technologies nouvelles en éducation ne vont pas d'un coup passer sous la coupe des didacticiens et ne vont pas se mettre à faire de la didactique du français. Hein. C'est tout à fait... Il y a une forme d'habillage institutionnel, incontestablement, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'au début, des fois, ça peut être que de l'habillage institutionnel, ce qui était aussi le cas des anciennes équipes de recherche, peut-être. Mais ce n'est pas seulement, ça peut ne pas être seulement ça. Pourquoi ? Je prends un exemple très très concret, relié à ce dont j'ai parlé avant. Vous avez une équipe comme celle de Lille. Bon. Imaginons qu'à un moment donné, un des membres de cette équipe voit passer un appel d'offres qui le motive pas mal sur un thème. Mais que le thème est plus vaste, évidemment, que sa seule spécialité disciplinaire, ce qui est quasiment toujours le cas. Et il se dit, tiens, je vais en parler avec mon collègue de Trigone. On se connaît, on se croise assez souvent. Voir si ça ne l'intéresserait pas que le CIREL répondre à cet appel d'offres. Parce que on est bien conscient que si c'est le CIREL qui répond et qui dit voilà, c'est un laboratoire de plus de 60 enseignants-chercheurs avec des didacticiens, des spécialistes des professions, des spécialistes des technologies nouvelles, etc., qui répond et qui s'engage à traiter le sujet, j'ai plus de chances à gagner l'appel d'offres que si c'est uniquement moi qui suis dans l'équipe, par exemple, Proféor, qui répond avec ma petite équipe Proféor. Et donc, dans ce cadre-là, ils peuvent plus facilement gagner l'appel d'offres. Mais s'ils gagnent l'appel d'offres, ils vont devoir collaborer pour y répondre. Et sur cette base, peuvent se mettre en place des collaborations scientifiques, etc. Donc, on peut être au début dans un strict habillage institutionnel, mais ensuite, la vie de l'équipe peut générer... des productions qui ont une certaine fécondité intellectuelle et scientifique. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais, c'est en ça que c'est quand même intéressant de considérer ce genre de choses. Et puis par ailleurs, entre nous soit dit, pour l'extérieur, mais y compris pour des gens comme nous, c'est quand même plus pratique. Non mais quand je dis que c'est plus pratique, non seulement parce que c'est plus facile à mémoriser, mais aussi quelque part, vous cherchez des gens pour organiser quelque chose, vous cherchez des correspondants, vous voulez adresser un document, etc. Bon, le CIREL, au moins, c'est facile à mémoriser. Vous avez quelqu'un qui en est responsable, vous pouvez leur écrire, etc. Et puis, il y a une mutualisation des moyens. C'est anecdotique, mais ce que je disais sur les sites web, pourquoi l'équipe Paris 8, leur site web, il n'est pas à jour? Mais parce que les équipes de recherche en éducation, comme elles ne sont pas soutenues par le CNRS, comme elles n'ont pas beaucoup de moyens financiers, ils ont très peu de personnel d'appui. La plupart des équipes de recherche, ce ne sont que des enseignants-chercheurs. Ils n'ont pas de personnel comme moi qui sont là pour les aider, pour faire support à la recherche. Ils n'ont pas d'ingénieurs d'études, ils n'ont pas d'informaticiens, ils n'ont rien de tout ça. Donc, quand ils font quelque chose, ils doivent le bricoler eux-mêmes avec leurs petits doigts. Et bon, je sais bien qu'en enseignant-chercheur, c'est tout et c'est tout faire. Mais enfin, quand il s'agit de faire des fois des sites web, ils sont un peu démunis. Bon, et là, par exemple, je prends dans le cas de Lille, je ne connais pas très très bien cette équipe. Donc, ce que je vous dis, c'est peut-être un exemple fictif. Mais comme ça, à vue nez, il est clair que Trigone, il devait avoir 2-3 personnes qui sont capables de bricoler un site web. Peut-être que Proféor, il y en avait peut-être, ou Théodile, il y en avait peut-être un peu moins. Et bien, peut-être que l'un va faire ça pour l'autre, pendant que les autres, eux, vont apporter leur expertise dans un domaine. Donc, c'est quand même... dans le cadre de Lille, je ne sais pas trop, même si sur ceux de Lille 1, c'est clair, ne peuvent pas être des sciences d'éducation pures, mais je ne me rappelle plus quelles sont leurs affiliations disciplinaires. Il doit y avoir un peu de tout. Je ne m'en rappelle plus, mais souvent, c'est le cas, oui. En l'occurrence, vous voyez, ça... Théodile et Proféor, ils étaient sur l'université de sciences humaines et de lettres de Lille, c'est-à-dire Lille 3. Trigone, ils étaient sur l'USTL, qui est essentiellement sciences et économie. Bon, il doit y avoir un peu de fécondation disciplinaire à travers les deux, mais je ne me rappelle plus toutes leurs affiliations précises. Bon, j'avance un peu. Alors, pour mémoire, il y avait les équipes... ces équipes, en fait, ont 3 revues qui correspondent peu ou prou à chacune des 3 équipes. Alors, la revue Spirale, les cahiers Théodile, et puis une revue, alors là je ne savais même pas qu'elle existait, mais visiblement c'est peut-être un projet qui s'appelle Transformation, mais j'ai rien réussi à trouver sur le web, donc je pense que c'est plutôt un projet lié à l'équipe Trigone plutôt qu'une revue qui existe déjà.
C'est
Moi, je ne la connaissais pas en tout cas. Alors, justement, j'ai défloré le sujet. Est-ce que c'est une équipe ou est-ce que ce sont des équipes? Parce que même dans les équipes de recherche aujourd'hui, qui ne sont pas forcément les plus grosses ou qui ne sont pas le résultat de la fusion, on voit en fait souvent que derrière le mot équipe de recherche, il y a plusieurs sous-équipes. Notamment, c'est quand on voit la déclinaison d'équipes de recherche en axes, il est assez fréquent que les axes ne soient pas simplement des axes de recherche, ce soient en fait des sous-équipes. Je prends l'exemple du CREFI de Toulouse. Vous avez déjà deux axes, enseignement et apprentissage et processus de professionnalisation. Et dans le premier axe, vous avez trois sous-composantes et dans le deuxième, deux sous-composantes. Bon, là, il est clair qu'à un moment donné, on est un peu dans des phénomènes de juxtaposition, même si après, il y a quand même des axes, un lien commun et tout, mais vous imaginez bien que peut-être pas la vision de l'équipe qu'on peut avoir de façon unifiée. C'est encore plus accusé dans l'équipe de Nanterre, le CREF. Là, je m'appuie sur ce qu'a dit l'ERS, donc j'ai un joli filet. C'est qu'ils l'ont dit eux-mêmes, ces quatre sous-équipes dont chacune vit sa vie un peu de son côté, et qu'il n'y a pas réellement d'unité forte de l'équipe. Pendant longtemps, le CREF, c'était dominé par la personnalité de Jacky Beyrot. Jacky Beyrot n'étant plus là, il faudrait, des fois c'est une personnalité qui fait vivre une équipe, qui fait le lien. Bon, là c'est vraiment quatre sous-équipes, ou cinq. J'ai mis quatre, mais j'ai l'impression qu'il y en a cinq spontanément. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je sais qu'enseignement supérieur, par exemple, dans un domaine que je connais bien, c'est une enseignante-chercheuse avec ses doctorants. Genre savoir éducation, c'en est essentiellement deux enseignantes-chercheuses et c'est en reconfiguration. Éducation familiale, c'est l'héritage de spécialiste d'éducation familiale qui avait lancé ce thème-là en France, qui s'appelle Paul Durning, mais qui doit être plus ou moins émérite, je crois. Bon, il y a d'autres gens qui travaillent là-dessus, mais c'est quand même... Donc, etc., etc. Tout ça pour dire que là, on a clairement affaire à plusieurs petites équipes regroupées sous un intitulé commun plutôt qu'une véritable équipe unifiée. Du moins, c'est ce que disait l'ERS. Et puis, les équipes... ça ne fait pas que se fusionner, ça naît et ça disparaît. Alors par exemple, il y a une équipe qui existait à Amiens, l'université de Picardie-Jules Verne, qui s'appelait le CURCEP, qui, attention, c'était, il y avait une vingtaine de... Je me rappelle, dans leur annuaire, il y avait une vingtaine de noms. D'ailleurs, c'est un peu comme une étoile, elle est morte, mais elle brille encore, puisque vous pouvez trouver sur web le site web du CURCEP qui n'indique pas qu'il n'existe plus. Donc si vous ne faites pas attention, vous avez l'impression que cette équipe de recherche, elle fonctionne encore. Il y a un annuaire, il y a les mails, il y a tout ce qu'on veut. Donc cette équipe-là, elle a disparu. Elle a disparu en 2008. C'est elle que j'ai dû interroger son directeur pour savoir ce qu'il était devenu, parce qu'il n'y avait rien de marqué nulle part. En fait, ce sont devenus un axe recherche internationale et interculturelle comparative en éducation au sein d'une équipe processus identitaire et processus sociaux de l'université Picardie-Jules Verne. Donc d'une équipe avec une certaine visibilité, c'est devenu un axe d'une autre équipe en création à l'intitulé spontanément, j'avais pas pensé à les regarder dedans, pour être clair. Bon. Donc c'est vous montrer que ces choses-là quand même peuvent évoluer rapidement. Le CURCEP était l'éditeur de la revue Carrefour en éducation. Donc là, hop, en un an, hop, disparu. Donc, disparition, il y en a qui naissent. Alors, il y avait une équipe qui s'occupait déjà de professionnalisation à Reims, mais qui s'appelait... Oui ? La revue, si, elle doit théoriquement toujours exister, mais c'est plus la revue du CURCEP, c'est la revue des gens qui la font. Puisque le CURCEP... Voilà, non, mais c'est... J'essaie un peu... lapidaire comme réponse, mais c'est la revue des enseignants-chercheurs qui s'interviennent en recherche internationale et interculturelle comparative en éducation. Bon, voilà. Je sais pas dire mieux. Donc, le laboratoire d'études et de recherche sur les professionnalisations, il a été créé, lui, en 2008. Alors, il y avait déjà un pôle qui sur ces questions de professionnalisation en Reims, mais là, quand même, c'est une recréation assez forte. Qui associe l'Université de Reims et l'UFM de Champagne-Ardennes. Quand je dis assez forte, parce que vous voyez, un laboratoire qui a été créé, mais il y a déjà une vingtaine d'enseignants-chercheurs qui sont inclus dedans, majoritairement en sociologie, j'ai mis 19e section, bon, mais aussi en infocom, en maths, etc., évidemment en sciences de l'éducation. Voilà. pour montrer que c'est un paysage mouvant quand même, que les choses sont pas... Parce que j'ai réalisé en faisant cette diapo que hier, j'avais plutôt insisté sur les lignes de permanence. Et il fallait quand même montrer aussi que les choses changeaient de temps en temps. Un autre exemple de jeune équipe, et là je trouvais ça intéressant puisque c'était à partir d'un IUFM qu'il s'est fait, c'est le centre de recherche Récifès à Arras, Université d'Artois, qui s'est monté à partir de l'IUFM de l'Artois, une équipe très pluridisciplinaire autour de l'éducation, qui est dirigée par Cécile Carat. Pourquoi je l'ai mentionnée? Parce que vous avez peut-être entendu son nom dans la presse récemment, vu qu'elle vient de publier un bouquin sur la violence scolaire au PUF, et qui regroupe une quinzaine d'enseignants-chercheurs, dont la plupart sont enseignants dans cette IUFM. Donc je trouvais intéressant de mentionner cela, parce que ça montre que même à partir d'une IUFM, il y a une création là vraiment originale d'une équipe de recherche qui ressemble déjà à quelque chose et qui peut se développer dans ce contexte où les IUFM sont intégrés dans les universités. Autre exemple de configuration, c'est alors une équipe de recherche qui est sur plusieurs universités. Et quand je dis sur plusieurs universités, pas les universités d'une même ville. Parce que bon, évidemment, si c'était Rennes 1, Rennes 2, bonjour là où, comme Lille, c'est pas non plus. Mais là, c'est carrément entre Nancy, Strasbourg et Mulhouse. Donc c'est pas non plus quand même des voisins tout le temps proches, même si ça fait des derbies en football, mais quand même c'est un peu éloigné. Avant, il y avait un laboratoire des sciences de l'éducation à l'ULP, Strasbourg 1. Il y avait une équipe de recherche à Nancy 2, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait à Mulhouse, mais donc voilà, ils ont tout reconfiguré, et maintenant donc, ils ont un laboratoire interuniversitaire, c'est relativement rare, donc je trouvais que c'était intéressant quand même d'en parler, des sciences de l'éducation et de la communication. Alors évidemment, Nancy 2 et Strasbourg 1, j'ai fait une erreur énorme sur ce diaporama, ça n'existe plus Strasbourg 1, c'est Strasbourg, l'université Strasbourg, ils ont fusionné, mais je suis désolé, moi-même, je suis un peu vieux, donc à force de dire ULP Strasbourg 1, ULP Strasbourg 1 pendant 20 ans, il y a des réflexes qui ont du mal à partir. C'est Strasbourg tout seul, et d'ailleurs Nancy aussi, normalement, ils doivent fusionner bientôt, mais bon, oubliez l'anachronie, c'est donc Nancy 2 et Strasbourg, se forment les gros contingents. Mulhouse, c'est un peu plus léger. Mais au total, ça fait quand même une cinquantaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs sur des thématiques relativement variées. Et vous voyez, j'ai mis quatre axes, quatre équipes, hein, parce que là aussi, on comprend bien que dessous, il y a des spécialisations assez fortes. J'accélère quand même, vu l'heure. Alors, j'ai fait une diapo pour les Rays du Dijon, parce que ça me paraissait important, d'une part, parce qu'ils ont eu un poids quand même important au niveau, ne serait-ce qu'institutionnel en France, au niveau de la recherche, puis parce que c'est amusant leur... Ça mérite de s'arrêter sur leur dispositif institutionnel. C'est une UMR CNRS. Elle a été associée au CNRS dans les années 80 ou au milieu des années 70. Je ne sais plus. Bon, bref. Donc, ils ont été créés, en tout cas, au sein de l'économie dans l'université de Dijon. Pourquoi je dis dans l'économie tout court? Parce que c'est pour ça qu'ils sont associés au CNRS. Pour le CNRS, c'est un centre de recherche en économie. Ils ont évolué vers l'économie de l'éducation. Centre associé au CEREC dans les années 70, puisque le CEREC, c'est un établissement public dont le siège est à Marseille, je crois. Mais qui en fait, il a des centres associés dans de nombreuses équipes de recherche universitaire, essentiellement en économie, mais pas seulement. Ça peut être variable. Enfin, tout ce qui touche autour des relations formation, emploi, etc. Donc, ils ont été centres associés CEREC et ils ont évolué petit à petit vers la sociologie de l'éducation, au point qu'aujourd'hui ils disent carrément on est sociologie de l'éducation. Mais ça leur a valu toujours des problèmes. Alors, je sais pas où ils en sont aujourd'hui avec le CNRS. Je sais un jour, on avait discuté avec Durubella, qui en a été, je crois, que sa directrice à une époque, qui disait qu'elle devait se batailler chaque année pour ne pas perdre l'association CNRS, parce que le CNRS disait « Ouh là là, mais moi, rentrez, les collègues qui ont peur de rentrer sont timides. Parce que pour le CNRS, eux, ils veulent voir que l'économie, faire de l'économie de l'éducation encore, mais alors si on dit que c'est de l'économie sociologie de l'éducation ou science de l'éducation, c'est pas pur. Or, au CNRS, on veut des choses pures. Donc, l'association au CNRS a constitué un problème. Est-ce que ça la constitue toujours? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été un vrai problème pour le vivre. Une équipe qui, pourtant, a gros rayonnement, reconnue pour ses travaux empiriques et quantitatifs, peut mener en France, ce qui explique que souvent,
les gouvernements ont fait appel à des gens du CEREC pour faire des rapports, pour donner leur avis sur un certain nombre de points. Et voilà, l'IREDU comprend une vingtaine d'enseignants chercheurs et chercheurs. Bon, je vous ai mis les axes, mais je ne détaille pas, vous pouvez les lire. Et puis bon, ils ont des sites web là, assez développés. Prenez des chaises, il y a des chaises au fond là, plutôt que de rester debout. Oui, oui, non, mais 5 minutes, ça va. Il y a eu un petit incident technique tout à l'heure, donc qui m'a coûté 5 minutes, donc je les reprends maintenant. Très rapidement également, pour dire que on peut aussi trouver des équipes d'éducation au sein d'équipes de sociologie. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé de l'éducation dans la sociologie. Alors, je ne pouvais pas ne pas mentionner évidemment l'Observatoire sociologique de changement de Sciences Po Paris, qui est l'UMR-CNRS, qui est donc, comme son nom l'indique, est plutôt dans la socio. Mais un des axes, qui est politique et dynamique éducative, est dirigé par Agnès Van Zanten. Et Agnès Van Zanten, aujourd'hui, c'est une des figures de proue dans le monde de la recherche en éducation en France. Et c'est pour ça qu'elle a édité le dictionnaire que je vous fais passer je ne sais plus où. Elle est très productive. Elle a publié des livres de référence aussi bien sur l'école en banlieue, je pense à son ouvrage L'école de la périphérie, voilà, chercher le titre exact. Là, elle vient de publier un ouvrage fantastique, qui est très bon, qui fait la synthèse de tas de choses qu'on a besoin de savoir sur les stratégies des parents par rapport à l'école. J'ai complètement oublié son titre en revanche, puisque je sais très bien ce qu'il y a dedans, mais bon. Donc, c'est quelqu'un qui est très important. Et pourtant, ce n'est qu'une équipe. Il y a 5 enseignants-chercheurs statutairement dans l'OSC qui se consacrent à l'axe politique et dynamique éducative. Mais en fait, ils ont beaucoup plus de relations. Ils ont beaucoup de relations avec la Belgique, notamment avec le GIRSEF, j'en parlais tout à l'heure, de Louvain, avec d'autres gens. Nathalie Mons, qui théoriquement est au laboratoire de sociologie d'éducation de Grenoble et chercheur associé aussi à Paris. Durubella, qui est à l'IREDU aussi, et fait partie des 5 chercheurs qui sont maintenant à l'OSC Paris. Donc l'OSC Paris a un rôle structurant très important. Agnès Van Zanten est également directrice de collection de la collection Éducation et Société au PUF. Qui est actuellement une des revues quand même qui est le plus connue pour les ouvrages en éducation. Autre exemple de l'éducation de la sociologie, c'est l'axe éducation du LAPSAC Bordeaux. Alors c'est en train de bouger au LAPSAC Bordeaux parce qu'il y a eu, comme on dit, des mouvements d'effectifs. Mais il faut retenir que c'était le labo de sociologie que François Dubé avait créé au début des années 90, qui aujourd'hui fonctionne en association avec l'antenne bordelaise du CADIS, parce que François Dubé est au CADIS, donc forcément. Il y a toujours des travaux en éducation assez importants quand même qui sont menés au sein du LAPSAC, même si le LAPSAC a d'autres thématiques sur la ville, les mobilités sociales, etc. Et aussi, on peut citer le service Paris 5, où là aussi, il y a un axe qui s'occupe plus particulièrement d'éducation, mais il y a de l'éducation un peu partout dans le service, qui était donc ce laboratoire de sociologie de l'éducation dont j'ai parlé souvent. J'accélère donc de l'éducation de la sociologie, et enfin des unités mixtes avec l'INRP. Alors ça aussi, c'est une forme assez originale, que moi j'ai mis du temps à comprendre en arrivant ici, c'est pour ça que je me permettais d'en faire une diapo. C'est-à-dire, c'est des unités qui ne sont pas associées au CNRS, qui sont associées à l'INRP. Ça leur apporte aussi, comme pour le CNRS, des moyens humains, matériels, etc. Pour les profits symboliques, ça c'est de voir, je ne me prononcerai pas dessus, je suis jugé parti. Donc il y a notamment l'UMR STEF qui est entre le NSCHAN et l'INRP, qui se consacre essentiellement à la didactique des curriculums. J'allais développer, puis je ne l'ai pas développé finalement, parce que ça m'emmenait trop loin, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Qui est une UMR donc qui est à Paris. Il y a l'UMR ICAR qui est une UMR entre le CNRS, le NS Lettres et Sciences Humaines, Lyon 2 et l'INRP, dans lequel l'INRP en fait a juste quelques enseignants centrés sur la didactique des langues et des sciences, puisqu'en fait c'est une UMR qui s'occupe de tas de choses dont certaines choses, même les intitulés, je ne les comprends pas. Alors c'est très très vaste. Il y a l'UMR ADEF, Université de Provence, entre l'Université de Provence, l'UFM et l'INRP, qui s'occupe essentiellement de didactique et de processus de formation, qui est une UMR beaucoup plus classique, ou encore l'UMR éducation et politique, qui est l'UMR commune entre, en gros, les sciences de l'éducation à Lyon 2 et l'INRP. sachant que celle-là elle-même est en reconfiguration totale, puisque pour le nouveau contrat, ils vont changer de frontières et de contenu. Donc voilà, je voulais juste les citer à titre de mémoire, parce que c'est une originalité dans le champ de l'éducation, puisque évidemment l'INRP n'a rien à voir avec le CNRS ou l'INSERM, mais on fait quand même des UMR avec l'INRP. Voilà, je crois que je vais arrêter là pour ce matin. On a laissé plus de temps à la discussion. Je crois que c'était quand même intéressant. Vous imaginez que si j'avais fait ce qui était prévu au début, c'est-à-dire lister une équipe par une équipe, on aurait du mal. En gros, on aurait parcouru la moitié du territoire et on n'aurait pas fini. Et je crois que vous en auriez un peu marre. Donc voilà, maintenant je vais laisser la place à des collègues pour parler de l'international. Simplement, en guise de conclusion de tout cela, je rebondis sur ce que vous disiez sur les fils. Bon. On peut se demander des fois, au vu de ce panorama, mais qui me semble indispensable de faire panorama des équipes. Est-ce que ça vaut le coup plutôt de repérer les équipes de recherche, ou est-ce qu'on se dit, mais attendez, finalement, là, ce qu'ils nous racontent est bien gentil. C'est des équipes, on sent bien que c'est des sous-équipes, que parfois il y a des individus dedans, que bon, c'est pas très structurant. Quand ils disent quels sont leurs axes, c'est des mots très généraux. Je travaille sur l'apprentissage et la formation. Oh, ben, oh, quelle surprise, je pensais que vous alliez travailler sur les abeilles. Bon, on se dit, mais ça veut rien dire, ces équipes. C'est pas vrai. Je pense que j'ai essayé de vous montrer que ça veut dire un peu des choses, mais que c'est vrai qu'on est dans un monde où parfois c'est plus simple de suivre les auteurs ou les réseaux spécialisés, voire même les réseaux généraux comme j'ai montré au début, ou de suivre les productions scientifiques, parce que l'entrée par les équipes, c'est pas toujours très évident. Mais c'est en même temps un monde mouvant. J'ai voulu là également insister là-dessus. Par rapport à des périodes où les choses ne changeaient pas beaucoup, il me semble que sous l'influence de facteurs institutionnels, de facteurs disciplinaires, d'évolution à l'intérieur du champ de l'éducation et formation, de l'éducation et de la formation, oui. L'équipe de recherche en éducation, ça peut, à un moment donné, commencer à représenter des enjeux réels. On en reparlera plus tard. Et que donc, il ne faut pas se désintéresser du sujet, même s'il est vrai que j'aurais fait cette formation il y a 15 ans, dans le cadre de l'INRP, si j'avais été là. Peut-être qu'il ne me serait même pas venu à l'idée d'aborder ça par la question des équipes et que j'aurais abordé par les individus. À titre d'anecdote, quand je suis arrivé à l'INRP en 2003, une collègue qui était là et qui faisait un service qui ressemblait un peu au nôtre, même s'il avait un autre nom, et qui en gros transmettait le flambeau, on parlait un peu à bâton rompu, et j'ai remarqué dans la conversation, moi elle me parlait d'individus, elle me disait « Ah, oui, là-dessus il y a Amig à Aix, il y a machin à là, etc. » Bon. Parce qu'effectivement, pour elle, spontanément, c'était des auteurs autour d'une problématique. Et à l'époque, jamais, j'aurais dit, on va rentrer par les équipes. Ça paraissait totalement incongru. Aujourd'hui, il me semble que parfois, ça commence un peu à bouger, en tout cas de cause que dans un but un peu prospectif ou stratégique, ou de veille, c'est-à-dire d'essayer d'être quelques secondes avant que ça se passe, d'anticiper un tout petit peu ce qui peut se passer, il faut garder un œil sur la dimension institutionnelle, sur la dimension équipe de recherche. Voilà, et maintenant, je vais passer avec plaisir la parole directement, sans pause, donc ils vont tout de suite venir ici, à mes collègues sur l'international. Alors, pendant qu'ils s'installent, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire, là, en cette fin de matinée et en début d'après-midi. Évidemment, nous n'avons pas la prétention de pouvoir brosser un tableau de la recherche au niveau international. Je ne sais pas qui pourrait faire ça. Mais en revanche, on s'est dit qu'on allait prendre quelques heures géographiques et dire quelques mots sur la recherche en éducation dans ces pays, à titre d'exemple, pour s'ouvrir un peu l'esprit. Sachant que dans notre travail au quotidien, une des choses qui nous intéresse le plus, c'est justement d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, d'aller trouver quelques références ailleurs qu'en France pour un peu bousculer les paradigmes, les habitudes, faire bouger les frontières. Ça me semble impossible aujourd'hui, et c'est le parti pris de notre service, ça nous semble impossible aujourd'hui de raisonner dans un cadre strictement français ou dans un cadre strictement francophone. Non pas pour des raisons de mode, mais ne serait-ce que pour des raisons de rigueur intellectuelle. D'autant plus qu'en éducation, souvent, on n'a pas de situation de laboratoire. C'est très rare d'avoir des situations de laboratoire. Un peu en psychologie, peut-être. En psychologie, on peut s'amuser, pour des tests relativement resserrés dans le temps, d'avoir un groupe à qui on fait passer une série de tests et un groupe témoin, et de voir les différences, les effets de contexte, etc. Mais à part cette situation très particulière, on ne peut pas s'amuser à expérimenter en taille réelle avec des enfants. Vous imaginez, si on explique, si on expliquait aux parents, voilà, on va expérimenter une nouvelle méthode, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais on va y passer vos enfants pendant 7 ans, et puis on espère que ça va marcher, hein, mais ne vous inquiétez pas, s'ils ont de meilleurs résultats que d'autres, vous serez contents. Sinon, bah, tant pis, hein. Bon, non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Donc, un des seuls éléments qu'on a souvent d'avoir cet aspect un peu scientifique d'expérimentation en éducation, c'est souvent la comparaison internationale. C'est-à-dire voir ce qui se passe dans des endroits totalement différents et d'identifier points communs, points variables. Et bon, ce qu'on a fait avec PISA, hein, quand hier Patrick montrait comment on peut utiliser PISA, bah, c'est quoi PISA? On fait passer les mêmes épreuves à tous les gosses de 15 ans dans plusieurs pays, avec un protocole un peu rigoureux, contrôlé, etc. Et puis on voit les variations. Alors, ensuite, PISA ne nous dit pas pourquoi ça varie. Parce que, je veux dire, est-ce que c'est la culture du pays? Est-ce que c'est son enseignement? Est-ce que c'est son dispositif? Est-ce que c'est... Bon, ça, il y a d'autres choses à explorer. Mais enfin, ça fait réfléchir. Ça fait ouvrir les idées. Ça, y compris, ça va contre parfois les idées reçues. Donc, c'est pour ça, pour nous, c'est vital d'avoir cette ouverture internationale et donc de comprendre un peu comment ça se passe ailleurs. Donc, évidemment... Dans la plupart du temps, l'ouverture internationale, ça consiste sur un thème, aller voir ce qui s'écrit sur ce thème à l'étranger. Mais pour trouver ce qui s'écrit sur ce thème à l'étranger, il n'y a que deux façons. Soit on regarde les bibliographies, cas typique. J'étudie les parents et l'école, et je commence à part des auteurs francophones et j'essaye de voir si ici des auteurs étrangers, je vais voir ces auteurs étrangers. Le problème, c'est que dans 90% des cas, il n'y a pas d'auteurs étrangers cités dans les bibliographies. Donc, il faut que je trouve d'autres façons d'aller trouver les gens qui travaillent sur les mêmes sujets à l'étranger. Alors, il y a des trucs qu'on va vous expliquer. On interroge des banques de données, des moteurs de recherche, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est bien, c'est de regarder les équipes de recherche en éducation à l'étranger, ce qu'elles produisent, comment elles produisent, de regarder les sujets qu'ils abordent. Et c'est de cette façon aussi qu'on identifie les correspondances ou non de nos thèmes à l'étranger.